Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à la recherche scientifique rennaise. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Alice Aubert et Alban Delavenne. Ces deux doctorants travaillent sur l'AgroCampus Ouest à l'Institut National de la Recherche Agronomique. Ils effectuent leur thèse, tous les deux, au sein de l'équipe agrohydrologie. Alice Aubert travaille sur la qualité de l'eau, tandis que Alban Delavenne, lui, étudie la quantité d'eau. Ils nous parlent tous les deux de leurs recherches dans cette émission consacrée à l'hydrologie. Alors Alice Aubert et Alban Delavenne, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes doctorants tous les deux au sein de l'INRA, donc l'Institut National de Recherche en Agronomie sur l'AgroCampus Ouest. Donc vous travaillez tous les deux au sein du laboratoire Sol Agro et Hydrosystème Spatialisation. Alors qu'est-ce qu'on étudie de manière générale ?
De manière générale, ça va être plutôt l'interaction entre le milieu naturel et l'agriculture. Les équipes travaillent sur le cycle du carbone, le cycle de l'azote dans le paysage. Et d'une manière générale, ça va être essayer d'avoir des systèmes de production durables, des systèmes de production agricole durables. Et on travaille sur préserver la ressource naturelle qui va être l'eau, l'air, le paysage.
Et au niveau des équipes ?
Il y a trois équipes qui ont été formées récemment. Il y a l'équipe ASAE qui travaille sur une méthode d'évaluation environnementale des systèmes de production qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Il y a une autre équipe qui s'appelle MOSOL, pour matière organique dans les sols. Et notre équipe, c'est l'équipe agro-hydrologie, où on travaille sur la dynamique de l'eau dans les bassins versants et des éléments chimiques dans l'eau.
Alors, comme vous venez de le dire, vous travaillez au sein de l'équipe agro-hydrologie. Enfin, est-ce que vous pouvez un peu nous introduire certains sujets d'études qui sont étudiés au sein du laboratoire ?
Donc, notre sujet commun d'études, comme le dit le nom de l'équipe, c'est l'hydrologie dans des systèmes agricoles. Donc on va travailler sur les transferts de l'eau et les transferts de tous les éléments qui sont dans l'eau. Donc notamment, un peu en sujet d'actualité, on a les transferts de nitrates en Bretagne. Mais on va aussi travailler sur le carbone organique dissous, qui est aussi un paramètre important pour la potabilisation de l'eau. Et également les pesticides, dans une moindre mesure. Et donc tout ce qui nous regroupe entre ceux qui travaillent sur la qualité de l'eau et ceux qui travaillent aussi sur la quantité d'eau qui est transférée, c'est notre échelle d'étude qui est le bassin versant.
Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement un bassin versant ?
On appelle bassin versant tout le territoire qui va être drainé par une rivière. Donc il faut imaginer le parcours de l'eau dans le paysage. Et c'est le parcours de l'eau dans le paysage qui définit les limites de bassin. Imaginez une pluie qui tombe sur un territoire. Elle va ruisseler petit à petit et rejoindre la rivière. Ce qui va amener l'eau à la rivière, principalement, c'est le relief. Et donc la limite du bassin, ça va être les lignes de crête définies par le relief, un peu comme un lavabo, où toute l'eau qui atterrit dans le lavabo va vers le siphon. Sauf que là, on est sur un paysage et toute l'eau va vers la rivière. De manière plus rigoureuse, on définit un bassin à partir d'un exutoire, qui va être un point sur le réseau, dans le cours d'eau. Et le bassin versant de cet exutoire, ça va être l'ensemble du territoire qui a potentiellement amené l'eau jusqu'à ce point.
Les transferts, ce n'est pas que 2D en surface. C'est un peu plus complexe parce qu'il y a aussi des transferts d'eau sous la surface, dans le sol et à travers la géologie. Et donc, le bassin versant, on dit que c'est la surface d'alimentation du cours d'eau. C'est ce qu'a dit Alban. Mais il y a aussi cette dimension en fait, en 3D qu'il ne faut pas oublier.
Quand vous preniez l'exemple du lavabo, c'est aussi important de préciser que ce n'est pas quelque chose de fermé systématiquement, c'est ça, non ?
Voilà, l'image du lavabo amène tout vers un seul point, alors qu'en réalité, c'est vraiment un cours d'eau, donc c'est quelque chose de linéaire. On n'est pas vraiment dans une bassine fermée, c'est quelque chose qui s'écoule jusqu'à la mer, finalement.
Alors, vous travaillez tous les deux donc, sur les bassins versants en Bretagne, mais vous avez des sujets de thèse bien différents. Alban, vous travaillez sur la quantité de l'eau, tandis que vous, Alice, vous travaillez plutôt sur la qualité.
Ouais.
Alors, on va d'abord s'intéresser à vous, Alban. Quoi consiste votre thèse ?
Alors, moi, je fais de la modélisation. Donc, je travaille sur un modèle mathématique, en fait. Un modèle, ça va être un ensemble d'équations où on lui donne des données en entrée. Alors, les données en entrée, ça peut être la pluie, ça peut être le dessin du cours d'eau, les limites du bassin, justement. À partir de toutes ces données en entrée, on va simuler le débit, donc la quantité d'eau qu'il y a dans la rivière à un instant donné. L'originalité de ma thèse, en réalité, ça va être sur le transfert d'informations d'un bassin où on a de la mesure, parce que tous les bassins ne sont pas jaugés, comme on dit. Il n'y a pas d'instrument de mesure de débit ou autre chose. Dans ce que je fais, moi, j'utilise cette information qui est produite sur un bassin et j'essaye de le transférer sur un autre bassin, qui peut être voisin, peut être plus en amont, plus en aval, plus ou moins grand. Et c'est valoriser ces points de mesure pour le réutiliser en différents points.
Et alors, pour mettre en place ce modèle informatique, votre travail consiste en quoi exactement ? Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup d'informatique, ou je me trompe peut-être complètement. Enfin, en gros, voilà, en quoi consiste un peu votre travail au quotidien ?
Alors, au quotidien, c'est beaucoup d'informatique, oui. J'utilise des données qui existent déjà. Il y a des bases de données sur beaucoup de bassins qui sont instrumentés en Bretagne. Je réutilise ces données-là. Notamment, il y a deux bassins qu'on appelle des observatoires de recherche en environnement qui sont gérés par l'INRA. Et je réutilise ces données-là. Donc, je n'ai pas à aller sur le terrain pour acquérir la mesure. Je traite ensuite ces données-là par ordinateur. Et mon quotidien, ça va être ça, de tester différentes configurations du modèle, différents paramétrages, différentes configurations spatiales des bassins. Il y a une seconde grosse partie qui va être l'analyse bibliographique, être au courant de ce qui se fait en ce moment, être au courant des dernières avancées en fait, scientifiques, pour que nos travaux soient utiles.
Et il y en a beaucoup justement, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus aussi en parallèle.
Oui, il y a énormément de modèles en hydrologie, énormément de travaux. Il faut être original.
Vu que vous travaillez sur différents bassins, est-ce que vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain de temps en temps ou pas ?
Alors, quand je peux, j'essaie d'y aller. C'est bien d'avoir une vision concrète des bassins sur lesquels on travaille et pas seulement à travers un écran. À l'occasion, quand quelqu'un se déplace, je peux l'accompagner, par exemple.
Et alors, donc, ce logiciel qui consisterait en gros à calculer les débits,
ouais,
les débits d'eau, il s'adresse à qui ? J'imagine qu'il y a plein de gens qui pourraient être intéressés.
Ouais, voilà, il n'y a pas une personne en particulier. Ça va être, de manière générale, les gestionnaires de l'eau, donc les collectivités territoriales. Ça peut être utilisé par des bureaux d'études aussi. Tous ceux qui vont vouloir simuler des chroniques de débit en des points qui ne sont pas jaugés. Et d'une manière générale, on crée des modèles aussi pour comprendre les processus qui se passent à l'échelle du bassin versant. De manière générale, on peut dire qu'il y a des modèles qui servent à anticiper les crues, cartographier les zones inondables, les choses comme ça. Même si ce que je fais, moi, ce n'est pas l'objectif premier. Les modèles hydrologiques permettent de simuler des chroniques de débit à un moment donné et aussi de prévoir, anticiper ce qui peut se passer, faire des scénarios. On peut dire aussi que si on a réussi à faire un modèle qui reproduit bien les données observées, on a globalement compris le fonctionnement du bassin versant et on est capable de ce fait de mieux le gérer si on a mieux compris comment il fonctionnait.
Donc ce qui va intéresser les collectivités dans votre logiciel, c'est aussi surtout pouvoir prévoir ce qui peut éventuellement se passer en fonction de la météo.
Oui, voilà, ça peut être prévoir, anticiper ce qui peut arriver ou simplement avant un aménagement, essayer de comprendre quelle est la contribution de telle partie du bassin, comprendre comment le bassin fonctionne.
Alors ce logiciel, vu que vous étudiez des bassins versants en Bretagne, est-ce qu'il va s'adresser à des collectivités bretonnes ou en France, dans le monde ?
Je suis sur une thèse qui est financée à moitié par la région Bretagne et à moitié par l'INRA. De ce fait, dans ma thèse, on va essentiellement l'appliquer en Bretagne. Mais dans la manière dont il est construit, c'est une manière assez générique qui, pour faire simple, qui se base sur essentiellement le dessin du cours d'eau. C'est ce qu'on appelle modélisation à base géomorphologique. Et c'est une méthode qui peut être appliquée finalement un peu partout. Je le reprends même d'une thèse qui a été appliquée en Tunisie, donc plutôt dans un contexte semi-aride, donc très différent de ce qu'on connaît en Bretagne et qui fonctionne aussi bien en Tunisie qu'ici.
Dans quel cas est-ce que votre logiciel il va devenir indispensable ? J'entends par là, dans quel cas une collectivité va forcément devoir se procurer votre logiciel ?
Je ne sais pas si mon modèle deviendra indispensable, mais en tout cas...
On peut espérer.
En tout cas, les modèles hydrologiques, en général, sont indispensables dans ce qui va être l'annonce de crues, la prévision des inondations pour alerter la population ou même cartographier des zones inondables. Ça peut avoir des rôles très importants dans ces cas-là.
Une petite coupure musicale, on écoute tout de suite Victor Davis avec son titre Love. Alors on va s'intéresser à vous Alice maintenant. Donc vous travaillez sur la qualité de l'eau. Alors en quoi consiste votre sujet de thèse ?
Donc moi à la différence d'Alban, je vais plutôt traiter de données, je vais pas faire de modélisation. Mais donc je vais analyser des données pour essayer de comprendre la concentration qu'on obtient dans la rivière en différents éléments chimiques, par quel processus on arrive à ces concentrations. Et particulièrement dans mon sujet, je vais me poser la question du climat, particulièrement quelles sont les conditions météorologiques. Quel impact peuvent avoir différentes conditions météorologiques sur ces concentrations dans la rivière ?
Et alors, les éléments sur lesquels vous travaillez ?
Donc, moi, je vais travailler sur les nitrates, qu'on a déjà un peu évoqués, qui sont assez étudiés dans l'UMR. Également le carbone organique dissous et les chlorures et quelques autres.
Tous ces éléments, comment est-ce qu'ils arrivent dans l'eau ?
Alors en fait, donc il faut savoir qu'il existe naturellement des cycles dans la nature et dans l'environnement pour chaque élément, donc que ce soit l'azote ou que ce soit le carbone. Donc en général, il y a des molécules de gaz qui sont fixées dans les sols. Et ensuite, il y a des réactions qui sont possibles à différents niveaux. Donc à la fois dans le sol, dans l'eau du sol, par des bactéries du sol. Et il y a des transferts lents ou rapides ensuite par l'eau qui circule, comme on l'a dit, au sein du bassin versant. Et suite à ce transfert via l'eau, on obtient donc les concentrations dans la rivière.
Et alors, est-ce que la météo intervient dans ce processus d'éléments qui passent dans le sol puis dans l'eau ?
Oui, parce qu'en fait, la météo, ça va être à la fois la quantité de pluie qui tombe, donc la quantité d'eau qui circule dans le bassin versant. Ça va déterminer l'humidité des sols, ça va déterminer la température, le rayonnement global, qui sont autant de paramètres qui vont agir à différents niveaux sur le cycle des éléments dans le bassin versant. Et notamment, donc, si on pense en quantité d'eau, donc ça peut agir soit par dilution, soit par concentration, tout bêtement. Et les autres paramètres peuvent agir sur les organismes du sol, les bactéries, qui participent aux réactions de transformation des éléments. Donc la météo a bien un effet sur la concentration des éléments.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct entre vos recherches et l'agriculture ?
L'Observatoire de recherche en environnement sur lequel on travaille s'appuie sur... un territoire fortement intensif, avec une agriculture très développée, notamment une activité d'élevage très poussée. On a effectivement des conditions très particulières et qui sont propres à un territoire agricole. Donc en fait, les cycles généraux des éléments vont être modifiés par cette activité agricole. Et donc nous, ça va être essayer de comprendre les différences, en quoi les processus vont être donc modifiés par l'activité agricole et effectivement, ce ne sont pas les mêmes qu'en milieu naturel.
J'imagine qu'il y a un but à atteindre dans votre thèse.
Donc en fait, pour moi, ça va être surtout de comprendre comment ça marche et quelles sont les conditions météorologiques qui vont impacter donc, la qualité de l'eau et comment. Donc moi, ça va plutôt être cette étape de compréhension qui va être importante. Mais à terme, ça va peut-être pouvoir, j'espère, permettre de prédire au mieux et donc d'anticiper les impacts des pratiques agricoles en termes de qualité de l'eau. Donc par exemple, suite à mes travaux, peut-être qu'on peut imaginer améliorer des modèles de transfert des éléments dans les bassins versants et donc par là faire de la simulation et anticiper. Et suite à ça, pouvoir proposer des techniques ou des pratiques agricoles adaptées et surtout prenant compte de ces possibles impacts du changement climatique.
C'est un gros projet.
Comme je disais, moi, c'est surtout comprendre l'impact de la météo sur le bassin versant. Et à terme, c'est sur fond de changement climatique en fait, qu'on se pose cette question.
On parle beaucoup dans l'actualité du réchauffement climatique. Est-ce qu'il joue un rôle justement dans vos recherches ?
Les chroniques que j'étudie, mes données, elles ne sont basées que sur 10 ans pour le moment, parce que c'est à partir de cette date-là qu'on a eu un suivi régulier, journalier en fait, de la qualité de l'eau dans la rivière. Donc sur 10 ans, moi je ne peux pas vraiment traiter de changement climatique. Donc dans ma thèse, ce qui est affiché, c'est la variabilité climatique. Et donc ça revient à ce que je disais sur les conditions météorologiques, comment ça va influencer.
Alors, je reviens sur les concentrations des éléments que vous étudiez dans le sol. Alors, quels sont les dangers quand il y a une trop forte concentration de certains éléments ?
Pour certains éléments, ça va être des trop fortes concentrations. Pour d'autres, ça peut être un manque de concentration. Mais c'est vrai que j'évoquais les nitrates tout à l'heure. En Bretagne, on a plutôt tendance à ce que ce soit des concentrations trop fortes. Et d'une façon générale, en fait, quand il y a un déplacement des équilibres dans ces cycles que j'évoquais, des éléments, eh bien, ça peut favoriser le développement de certaines espèces, de certains organismes qui vivent dans les rivières et conduire à des situations qu'on dit d'eutrophisation qui, poussées, peuvent aller jusqu'à la mort d'autres catégories d'espèces qui vivent dans le même système aquatique.
Alors, eutrophisation,
veut dire quoi ? L'eutrophisation, c'est ça, c'est le surdéveloppement de certains organismes, en fait, qui sont dans l'eau.
Qui, du coup, vont empêcher d'autres espèces de...
Voilà, en fait, par exemple, en Bretagne, on a les phénomènes d'eutrophisation qu'on appelle marée verte, et qui vont être un surdéveloppement des algues par le fait d'apport de nutriments dont l'algue a besoin, donc par exemple l'azote ou le phosphore ou d'autres. Donc l'algue va se développer, surtout dans la couche superficielle de la plage, de la mer, parce que c'est là où il fait le plus chaud. Et elle va utiliser une grande partie du dioxygène qui est disponible. Et donc, toutes les autres populations qui vont être dans le même milieu vont en avoir moins et peuvent finir par mourir. Et ensuite, on peut avoir, dû à la forte quantité d'algues, les échouages qu'on connaît sur les plages.
Justement, ces algues, est-ce qu'elles sont dangereuses ?
Les algues en elles-mêmes ne sont pas dangereuses, elles sont là naturellement. Mmh. Ce qui peut être dangereux, et là je fais référence à une conférence que j'étais allée voir à l'Espace des Sens l'année dernière, c'est lorsqu'elles sont échouées sur les plages, il va y avoir celles de surface qui vont d'abord sécher, et toutes celles qui sont sous cette croûte vont en fait se dégrader de façon anaérobie, donc en absence d'oxygène. Et lors de cette gradation, il y a le dégagement d'un gaz qui, lui, peut être toxique et dangereux pour la santé.
Alors pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a un site internet que vous conseilleriez pour avoir plus d'informations, voire des détails sur certains sujets ?
Bah, déjà, il y a le site de notre UMR qui peut être consultable, ouais. Donc SAS. Moi, il y a un autre site que j'ai envie de conseiller, qui est dédié au transfert de connaissances, qui est un site fait par l'INRA, dédié au transfert de connaissances, qui s'appelle Territo. Dedans, vous pouvez trouver, il y a une rubrique qui ressemble plus à des cours, à de l'information générale sur les différents polluants, les voies de transfert, les zones humides, ce qu'on appelle une bande enherbée, enfin... Donc ce qui est vraiment de la connaissance de l'INRA qui est mise à disposition de l'internaute. On peut également ensuite trouver des outils de diagnostic pour pouvoir évaluer les pratiques agricoles. Peut-être une autre chose qui peut être amusante à aller voir, c'est qu'il y a une boîte à outils avec des schémas de bassin versant et des animations qui vont expliquer les transferts d'eau. Et donc là, peut-être qu'avec le mouvement de l'eau, on se rend mieux compte de ce qu'on vient de dire.
Donc c'est plus ou moins des outils pédagogiques un peu qui...
Oui, d'accord. Tout à fait. Ouais.
Vous participez tous les deux au festival Sciences en cours. Donc il s'agit d'un festival rennais de courts-métrages réalisés par des doctorants sur leurs travaux de thèse. Et donc qui aura lieu le 5 avril 2012 sur le campus de Rennes. Alors pourquoi avoir eu envie de participer à ce festival ?
On avait vu des très courts-métrages dans un doctorant de l'agro. Et ça nous a un peu stimulés.
C'est plutôt fait sous forme comique, en fait. Ça peut être quelque chose de sympa à réaliser. Et puis, c'est aussi l'envie de faire passer simplement ce qu'on fait. On essaye de vulgariser un maximum, parce qu'il faut faire passer nos thématiques de recherche en 5 minutes et que ça soit quelque chose qui accroche un peu. Donc, c'est plutôt quelque chose de sympa à faire.
En fait. Et alors, du coup, en avant-première, est-ce qu'on peut savoir un peu ce que vous avez prévu de raconter dans votre court-métrage ?
On va essayer de poser des définitions assez simples. Par exemple, qu'est-ce qu'un bassin versant ? On va essayer de montrer quel est le rôle du chercheur en hydrologie, comment on acquiert de la donnée, à quoi ça sert, comment on les traite, pourquoi modéliser.
Et tout ça, ça va être Augustin qui va vous l'expliquer.
Ah, Augustin, d'accord. Eh bien, parfait. Ben alors, rendez-vous donc le 5 avril au Diapason, sur le campus de Beaulieu, pour découvrir votre court-métrage et bien d'autres. Eh bien, merci à vous deux, en tout cas.
Merci.
Et à une prochaine, peut-être.
Oui, au 5 avril.
Pour en savoir plus sur les recherches de nos deux doctorants, rendez-vous sur le site de Radio Campus Rennes au www.radiocampusrennes.fr. Vous pourrez également retrouver le podcast de l'émission. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique. Yeah.